nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Yann se retrouve dehors, il fait nuit, et il n'est pas très sûr de lui. Les autres le laissent, et il s'en retourne seul, décide de rentrer, comme il est venu, à pied. Il s'en retourne, de même. Le trajet lui paraît long. Il se retrouve vite dans la campagne. Après quelques minutes de marche, ses jambes tremblent et il ne peut plus continuer. Alors, il se dit qu'il doit s'endormir. Il s'allonge dans le fossé de la route, malgré qu'il fasse froid, mais lui n'a pas froid, et s'endort de suite. Il se réveille, engourdi. Il est fatigué et décide de continuer sa route. À la ferme, il est déjà tard. Il est fatigué, la tête vide. Tout le monde est à ses occupations. Il retrouve sa mère à la cuisine, à préparer des fruits pour les confitures. Elle lui demande « Où étais-tu ?» Ne lui répond pas. Elle lui dit « Tu es trop jeune. Vous passez la nuit dehors. Alors, où étais-tu ?»
« En ville. »
« Et qu'as-tu fait ?»
« Rien. »
Elle le regarde bien et se dit qu'il ne pourra jamais être comme Luc.
Va te coucher.
Il y va. Elle est triste. Oui, elle est triste. Son fils n'est qu'un bon à rien. Il ne pourra pas être comme Luc. Elle devient de plus en plus mélancolique. La nuit, elle voit souvent son mari dans ses rêves. Il la regarde, accusateur. Il sait. Elle devient de plus en plus mélancolique. Elle se souvient du début de son mariage. Là, la vie semblait simple. Oui, la vie semblait simple. Et puis, les choses se sont dégradées. Mais le mal est venu le jour où l'a amené Luc, le fils du diable. Elle l'a vu de suite. Remarquez son regard mauvais. Luc a envoûté son mari et sa fille, mais pas son fils. Et c'est peut-être pour ça que son fils est un bon à rien, parce qu'il a donné le mauvais sort. Et c'est lui qui a dû. L'ennuyer. L'envoûter pour qu'elle tue son mari. Oui, c'est Luc qui l'a envoûté pour qu'elle tue son mari. Il est le diable, c'est de sa faute. Elle pense à ça jour et nuit, mais cachée des autres. Ses pensées sont cachées des autres. Les enfants ne voient pas qu'elle souffre, ni Luc non plus. Luc travaille beaucoup malgré son jeune âge. Il est le seul homme de la ferme. Jean l'aide, Luc ne lui parle plus de son amour. Il se dit qu'elle n'en veut pas, il en souffre. Mais cache sa souffrance, passe des nuits à courir dans la campagne. Jean ne lui parle plus de ses sentiments. parce qu'elle trouve que c'est interdit, un péché, parce que c'est son frère. Des fois, elle reste des heures cachée à le regarder. On le voit peu. Il va souvent au bourg pour jouer aux cartes. Il adore ça. Les vieux avec qui il joue le flattent. Une nuit, la mère se dit, qu'en tuant le diable, que les choses pourraient s'arranger. La famille retrouverait son calme. Et son mari lui pardonnerait et ne viendrait plus la tourmenter la nuit. Parce qu'elle ne veut plus voir son visage laid et plein de reproches dans la nuit, toutes les nuits. Se lève. Et en chemise de nuit, sort de sa chambre. Elle descend à la cuisine. Là, à la cuisine, dans le tiroir du buffet, elle prend un couteau de cuisine. Et sort de la maison. Il fait du vent. C'est la pleine lune. Elle va à la grange. Pousse la porte. Il est là, le diable. Elle le voit allongé sur sa paillasse. Habillé, le torse nu. Elle s'approche. Lève le couteau. Un rayon de lune, au même instant, éclaire son visage. Elle est paralysée, éblouie, émue par la beauté du diable. Son corps se serre. Elle se met à pleurer. La beauté de son visage est pure comme du cristal. Elle lâche le couteau, se cache le visage des deux mains, pleure et se sauve en courant. Une fois dehors, dans le vent, elle se dit, on ne peut pas tuer le diable, le diable. Le diable hypnotise, éblouit. Et puis le diable,
ne porte pas le péché, il le donne. C'est lui, c'est celui qui a reçu le péché qui doit payer. Si je veux réparer le mal que j'ai fait, c'est moi qui dois payer. J'ai été tenté et j'ai fait. Je suis la seule coupable. Le vent l'entoure. Elle entend le bruit. Elle lève la tête au ciel. Tout d'un coup, les éclairs, le tonnerre, elle panique. Elle panique. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Tout ça l'a mis les nerfs à vif. Elle s'évanouit. Se réveille, trempé au milieu, de l'orage. Elle ne sait plus, comme une folle, elle se met à courir sous l'orage. Comme une personne qui a perdu la raison, plutôt. Après avoir couru dans la campagne, elle s'arrête, se demande ce qu'elle fait au milieu de l'orage. Elle a l'impression de se trouver en enfer. Elle a peur, crie, se met à courir au hasard, en tendant les mains comme une démente. Elle a peur. Le souffle court. Tout à coup, elle retrouve devant elle la ferme, comme Luc et Jean qui voulaient fuir et partir droit devant eux. Ils n'ont fait que retourner à la ferme. Elle a fait la même chose. Les gens de ce lieu, de la ferme au diable, ne peuvent s'en aller. Ils sont commémentés par un... par le lieu. Ils ont beau aller de l'avant pour s'enfuir, ils ne font que retourner à la ferme. Alors, elle va rentrer à la ferme. Retourne à sa chambre. Elle est trempée. Se déshabille. Se met nue. Tombe à genoux. En pensant à ce qu'elle a voulu faire. Tuer presque un enfant. Parce qu'elle était coupable. Elle passe le reste de la nuit à prier, à genoux, nue. Lendemain, épuisée, elle se lève, s'habille et va à la cuisine préparer le repas du matin, faire le feu et tout. En faisant cette occupation, les gestes simples l'a rendue morose. Et elle est un éternité. Lorsque Luc vient à la cuisine pour le repas, elle le voit. Une sensation de tristesse la prend et se dit qu'il a gagné et que le mal est bien chez elle. Elle ne le supporte pas. Se met à pleurer. S'assoit à table. Lui va vers elle, lui demande « Vous êtes malade ?» Elle lui dit « Non, rien, ne me tente pas, cette nuit, vous m'avez défié et gagné, en me donnant de la pitié. » Il ne comprend pas, cette nuit, il ne l'a pas vue, et se dit qu'elle doit avoir perdu la raison. D'ailleurs, depuis quelque temps, elle est bizarre. Ce doit être la mort de son mari. Une fois qu'ils aient pris leur repas et qu'ils sont partis à leurs occupations, elle se retrouve seule et se dit que rien ne va changer, que son mari va venir la visiter toutes les nuits pour que le calme revienne dans la maison. Il faut que le péché soit expié puisqu'elle ne peut pas tuer celui qui a amené le drame à la maison. C'est elle qui doit expier. S'habille. Une fois habillée, elle sort de sa poche la fiole, la prend, l'ouvre, la sent, en boit une gorgée, referme la fiole. La remet dans la poche de sa blouse. Puis, va sortir pour donner manger aux poules. Ne sent plus rien, même elle se sent mieux. Le ciel est bleu, il fait doux, elle a fait ce qu'elle devait faire. Plus plus d'anxiété, de remords. Retrouve ses poules, les fait sortir du poulailler et leur donne des grains de blé. Tout à coup, elle voit le sol et les choses. Trouble. Et en même temps, plus clair et net. Puis, elle a l'impression que le sol tremble. Elle aussi, ses jambes ne la tiennent plus. Elle sent qu'elle n'a plus l'idée de réagir, de se relever, de crier, qu'elle perd l'équilibre et tombe à la renverse, comme ce qu'elle voit lui tombe dessus. Une fois à terre, sans que ça lui fasse mal, elle ne ressent rien, comme ça, lance. Puis, elle voit penser sur elle le visage en caoutchouc de sa fille, qui lui parle, mais elle n'entend pas. Se sent soulevée par des mains qui la portent. Elle voit ses visages, visages dont celui de sa fille. Ça la fatigue plus qu'autre chose. Elle aurait peut-être mieux aimé c'est de rester à terre seule comme ça.
On la fait rentrer dans la maison.
Perdu connaissance. Chambre est dans l'obscurité. Une petite bougie éclaire le lit. Elle est sur la table de nuit. Sa fille et son fils sont près d'elle. Lorsqu'elle a perdu connaissance, ils ont appelé le médecin qui l'a examiné et leur a dit qu'il ne pouvait rien faire. Le corps fatigué, elle se remettra toute seule. Si elle peut se remettre. Elle se sent bien. Elle sourit à ses enfants. Elle se dit qu'elle s'est sacrifiée et que le calme va revenir. Que les choses vont être mises en place. Elle voit apparaître, sortir de l'ombre face à elle, le visage de Luc. Une angoisse terrible la prend, se soulève en le montrant du doigt. C'est le malheur! C'est le malheur! Le mal! Et elle s'affaisse, elle est morte. Luc est horrifié. Jean se penche sur sa mère en pleurs. Mère, mère! Elle lui touche le bras, lui caresse le visage. Oh mère, mère! Elle tombe à genoux au pied du lit. Yann se penche vers elle, la prend à l'épaule et pleure. Luc est face au lit, face à la morte qu'il a accusée de porter le malheur. Il ne sait que penser, il aimerait fuir, il n'ose pas. Se sent prisonnier. Il se sent enchaîné, comme le frère et la sœur, à un destin commun, lié à la fosse du diable. De la présentation, tout de suite après l'entracte, première partie, de suite.
Et maintenant, cher public, puisque vous avez été bien sage, la direction du théâtre vous offre 10 minutes d'entracte. Et...
Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à berbe. Le gros la maigre le gras. Le doucereux adore la femme à serbe. Quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour ces mets, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Approuvez-vous tous ces chats de gouttière ? qui pour l'amour se courent après en miaulant. Si on faisait comme eux des heures entières, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre, même dans la rue, sous le nez des passants. Pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Taureau la vache, le chat le chien. Moi je trouve que ce n'est pas bien. Là. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle. Et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris.
Passé, la mère a été enterrée. Ce qu'a dit la mère avant de mourir a été enfoui dans la mémoire inconsciente. La vie continue. La vie continue à la ferme. Jeanne, en plus de son travail, est restée la même vis-à-vis de Luc. qu'elle aime et évite de le voir de porte. De péché à cause de son père qu'en a fait son frère. Le frère Yann et Luc, eux aussi, ont leur vie, ce qui fait que les trois jeunes gens vivent ensemble sans vraiment être ensemble. Luc travaille dur la terre et pour la plupart du temps seul dans les champs. Le soir, lorsqu'il rentre, il retrouve le frère et la sœur pour le repas, se parle peu et évite le regard de Jeanne. Il aime toujours, mais sait qu'elle le repousse. Il en souffre en silence. Les trois jeunes gens plutôt ne parlent pas de l'héritage. Ils savent qu'à la majorité, le notaire les convoquera. Comme ils n'ont plus de famille, ils devraient savoir un tuteur pour s'occuper d'eux. Mais comme ils sont dans un endroit isolé, personne ne fait attention qu'ils vivent seuls. Et puis le notaire surveille les comptes. Yann va toujours au bourg. À force d'y aller et de jouer aux cartes, on a fini par le connaître. Il a de l'argent parce que le notaire lui donne à chacun une somme tous les mois. Somme qui vient de la vente de leurs produits, des métairies et quelques autres loyers. L'après-midi, en arrivant au bourg, il voit arriver vers lui une charrette avec un cheval qui file à toute vitesse. Qui file à toute vitesse et dans le carriole d'une jeune fille qui tient les rênes. En essayant de calmer l'animal, la jeune fille accorde, panique, crie. Yann se met sur le rebord de la route pour laisser passer cette carriole en furie. Et dès qu'elle est près de lui, d'un geste brusque, il saute dans la charrette sans que l'animal ait arrêté sa course folle. En sautant dans la charrette, ça a poussé la pauvre fille qui a été éjectée à l'arrière de la charrette, les jambes en l'air. Yann rattrape les rênes qu'elle avait laissées lâcher et prend le fouet. Il tire fortement sur les rênes et tape l'animal, une belle jument noire. L'animal se rue, hennit, court. Yann tient bon et la tient fortement. Très fermement. Au bout d'un moment, après une dernière ruade, la bête s'arrête. Elle est sûrement furieuse. Yann, en sueur, tient bien la bride. Il se retourne pour voir la jeune fille. Et c'est une belle jeune fille, et toujours avachie derrière. Très belle jeune fille, rousse, avec de magnifiques yeux bleus. Lèvres pulpeuses, tête petite, rectangulaire, habillée d'une robe jaune. Il lui demande « Vous allez bien ?» Elle lui fait « Oui, je crois. Un peu étourdie, tout de même. » Elle sort de la carriole. Il lui demande « Où allez-vous » Elle lui dit « Je vais la voir. Faites attention. Elle est peut-être méchante. Mais non. Elle n'est pas méchante. Certainement qu'un pan a dû la gêner. » Elle va vers elle. L'animal semble calmé. Il caresse la tête et le museau. La jeune fille lui parle tout bas. Puis elle remonte dans la carriole. Yann tient toujours les rênes. Elle lui dit « Je vous remercie, vous êtes vraiment fort. » Elle lui dit « Ce n'est rien. » Elle lui demande « Vous êtes d'où ?» Il lui dit « Je suis de la fosse au diable. » Elle lui fait « Je vois, mais c'est très isolé et puis c'est assez loin. » Il la trouve très belle. « Et vous ?» Elle lui dit « Moi, je suis du bourg de Langue. Je viens voir ma grand-mère. Mes parents sont morts. » Il lui fait « Moi aussi. Et je vis avec ma sœur. » Il se regarde un peu gêné et lui demande « Vous allez où ?»« Eh bien, je vais chez ma grand-mère. » Je rentre chez moi. Il lui dit, eh bien, je vous ai accompagné. Pas la peine. Il lui fait, oh, on ne sait jamais. Et puis je tiens les rênes. Elle me sent. Elle lui dit, comme vous voudrez. Moi, je n'en peux plus. Et il met la carriole en route. Et le cheval trottine tranquillement. Il lui dit, tout à l'heure, vous avez tout de même une peur, non? Elle lui fait, oui, bien sûr. Je ne savais pas comment faire. Et puis, je vous ai vu arriver dans la carriole. C'était vraiment une apparition. Il lui dit, une belle apparition. Il fait, j'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. Tournez à gauche, c'est la maison qui est au fond de la rue. Là, à droite, la maison blanche. Il y va, c'est une petite rue du bourg. Il y a quelques petites maisons individuelles avec un petit jardin sur le devant. Il arrête sa carriole devant l'entrée de la maison. Il y a un petit muret qui entoure la propriété avec un portail, et à côté du portail, un autre grand portail qui mène à l'écurie, qui est directement sur la rue. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.